ça.
Des histoires, des aventures, des personnages pour tous les âges. 200 podcasts déjà disponibles gratuitement sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Belle fin de soirée sur France Inter, il est 23h. Le journal Thomas Vichard. Bonsoir.
Bonsoir. Emmanuel Macron passe la deuxième en vue des européennes. Le chef de l'État répond aux lecteurs du groupe de presse Ebra et charge de nouveau le Rassemblement National qui ne propose rien, selon le président français, dans cette campagne. Le gouvernement français qui annonce aujourd'hui sa dernière salve de mesures pour mettre fin à la crise agricole. Les syndicats ne sont pas d'accord entre eux. Vous entendrez la position réticente face aux mesures de la Confédération paysanne. Et puis large place au sport dans ce journal avec le sacre du PSG retardé en Ligue 1. Match nul des coéquipiers de Kylian Mbappé face au Havre. Le match vient de se terminer. Nous serons au Parc des Princes. Et puis également dans ce journal, la déception des joueuses du 15 de France, balayées par l'Angleterre dans le match décisif Destination.
France Inter.
Une nouvelle charge contre le Rassemblement National. Emmanuel Macron continue de s'investir dans la campagne européenne. Après son discours à la Sorbonne jeudi, le président récidive en répondant aux questions de 12 jeunes lecteurs du groupe de presse régional Ebra. Et à nouveau, le chef de l'État attaque le RN largement en tête des sondages, Élodie Forêt.
Interrogé sur la montée du Rassemblement National, Emmanuel Macron sonne la charge. Il y a une hypocrisie démocratique du RN, assène le chef de l'État qui mitraille le parti lepéniste, ne propose rien, dit-il. S'en prenant ensuite à l'inconstance de l'adversaire, il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Puis sur les agriculteurs, il ne vote pas la PAC, s'exclame le chef de l'État. Jordan Bardella a en effet voté contre en 2019. En 2021, il a en revanche voté pour. Mais qu'importe les détails pour Emmanuel Macron, l'essentiel est de passer des message simple. Je dis la technique, aujourd'hui la pédagogie sur son concept d'Europe puissance. Le chef de l'État qui a notamment de nouveau appelé à rendre crédible la défense européenne. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement, insiste Emmanuel Macron, assumant d'ouvrir le débat sur l'arme nucléaire.
Élodie Forêt, service politique de France Inter. 14 dernières mesures pour clore la crise agricole. C'est la promesse de Gabriel Attal qui a dévoilé ses annonces lors d'une visite dans la Manche aujourd'hui, avec des exonérations partielles d'impôts pour les agriculteurs les plus endettés, des aides pour la trésorerie, l'accélération également des chantiers de retenue d'eau. Le Premier ministre confirme par ailleurs que la réforme des retraites agricoles s'appliquera bien dès 2026 avec les 25 meilleures années de carrière. Si tout ça correspond aux attentes des syndicats majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, pas le cas de la Confédération paysanne, en particulier sur cette question des retraites, selon Laurence Marandola, la porte-parole du syndicat classé à gauche.
On ne peut pas dire que d'aligner à partir de 2026 le régime de retraite des agriculteurs sur celui du régime général, ce n'est pas du tout ce qui va se passer avec la question des 25 meilleures années. Ça va changer le type de cotisation et ça laissera sur le bord de la route une quantité d'agriculteurs qui n'ont pas les 25 meilleures années. Je voudrais d'abord citer les retraites de nos collègues des départements et territoires d'outre-mer pour des retraites agricoles en dessous de 500 euros. Eux ne sont pas concernés par cette mesure. Je voudrais aussi rappeler que les femmes, les paysannes ont des retraites pour l'immense majorité d'entre elles en dessous des 1000 euros. Et elles ne seront pas non plus concernées par les 25 meilleures années, ni les carrières incomplètes. Ça va laisser plein de gens sur le bord de la route. Et ça, c'est vraiment inacceptable.
Des critiques que ne comprend pas le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
On avait besoin de travailler sur des mesures complémentaires au travers de ce qui était des attentes de tous les syndicats, ça je crois qu'on peut le dire ainsi, ouais. Sur la question de la trésorerie, c'est le sens des 100 millions d'euros de garantie d'emprunt qui permettront à des agriculteurs qui n'ont pas accès à l'emprunt aujourd'hui de pouvoir y avoir accès par un système de garantie. Et puis là, c'est la prise en compte des 25 meilleures années dans la retraite agricole, ce qui était une demande de la profession. C'est un texte qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors maintenant qu'on nous dise qu'on ne va pas assez loin, là je dois dire que je comprends mal. Moi, ce qui m'importe, c'est que les agriculteurs, ceux qui nous écoutent et en général ceux qui vont être à la retraite, sachent qu'ils vont pouvoir rentrer dans la carrière, si je peux dire, avec le sentiment que leurs retraites vont vraiment être améliorées. Et je trouve qu'on peut pas être en permanence dans une forme de surenchère. Le compte y est pas. Sur les retraites, on aura fait ce qui n'avait jamais été fait depuis 40 ans vis-à-vis du monde agricole. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Marc Fesneau, chez nos confrères de France Info. Tout à l'heure, le ministre de l'Agriculture qui était aux côtés de Gabriel Attal lors de cette visite dans la Manche aujourd'hui. Une deuxième vidéo d'otages israéliens diffusée dans la journée par le Hamas. On y voit cette fois deux hommes de 64 et 47 ans qui parlent visiblement sous la contrainte. Ils ont été identifiés par les forums des familles des otages. Ces deux hommes enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël, puis emmenés à Gaza. En réaction, des manifestants se sont réunis à Tel Aviv, en Israël, peu après la publication de cette vidéo. Ils demandent aux autorités un accord pour la libération des otages. Des négociations de trêve dans la bande de Gaza assorties de libération d'otages se poursuivent justement ce week-end sous la médiation de l'Égypte et du Qatar. C'est une image très rare maintenant qui nous vient d'Espagne. Des milliers de personnes ont investi les rues de Madrid aujourd'hui pour demander au Premier ministre espagnol de ne pas démissionner. Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 6 ans, envisage de jeter l'éponge après l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption suite à une plainte d'une association proche de l'extrême droite espagnole. Il lui reprochait ses liens avec des entreprises privées qui ont reçu des aides publiques. Alors, pour faire face, les sympathisants socialistes demandent au Premier ministre de tenir bon et de rester, Marie-Hélène Ballestero.
La journée est historique pour les socialistes espagnols. Ce matin, le parti a tenu un comité fédéral et pour la première fois, le président des socialistes, Pedro Sanchez, n'était pas présent. Ses camarades, à l'image de la vice-présidente du gouvernement, Maria Jesús Montero, ont tenu à lui montrer leur soutien sans faille.
Presidente, quédate. Président, reste. Pedro, reste. Nous avons besoin du meilleur leader, du plus courageux, du plus énergique, du plus déterminé et du Pedro le plus humain. Courage.
À l'extérieur du siège du Parti Socialiste Espagnol, les militants se sont donné rendez-vous aussi ce matin. Aucun d'entre eux ne veut que Pedro Sanchez s'en aille et ils sont venus par milliers des quatre coins de l'Espagne pour lui dire haut et fort. Dans sa lettre, Sanchez a dénoncé une plainte déposée contre sa femme, basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par la droite et l'extrême droite. Les militants socialistes comme José Antonio en sont convaincus et appuient à 100% Sanchez et sa femme.
Je suis venu soutenir le président Sanchez pour qu'il continue, qu'il ne parte pas. Courage, il fait du bon boulot et l'Espagne a besoin de lui. Je n'ai aucun doute, il va tenir. C'est un homme très fort.
C'est vrai que Pedro Sanchez a toujours fait preuve d'une grande capacité de résistance, mais mercredi dernier, il avait l'air particulièrement abattu dans l'hémicycle. Les socialistes espèrent que cette fois-ci, il ne va pas jeter l'éponge.
Marie-Hélène Ballestero et Pedro Sanchez doivent annoncer sa décision lundi. En France, un peu moins de 10 000 foyers du sud-ouest privés d'électricité ce soir après les orages et vents violents. Ça touche principalement la Dordogne, mais aussi la Corrèze et le Tarn, selon le gestionnaire Enedis. En Dordogne, des chutes d'arbres sur des lignes à haute tension ont provoqué des coupures de courant chez près de 9 000 clients d'Enedis. Des perturbations également sur les rails. 8 départements du sud-ouest étaient placés en vigilance orange aux orages cet après-midi. Météo France a levé l'alerte en début de soirée. Pas encore de 12e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique viennent de concéder le match nul, 3 buts partout face au Havre au terme d'une rencontre spectaculaire. Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Parc des Princes. Alors Julien, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le PSG à 4 jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ?
Non, pas d'inquiétude puisque le Paris Saint-Germain avait effectué pas mal de roulements dans son 11 de départ. Mais c'est vrai que ce match est assez surprenant puisque le Paris Saint-Germain avait tout pour l'emporter, tout pour célébrer ce soir son 12e titre de champion de France. Il fallait une victoire face à un club promu, face au Havre. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme prévu puisque c'est le Havre qui a vraiment réalisé un très beau match en menant jusqu'à 3-1 face au Paris Saint-Germain. Paris qui est revenu en fin de partie dans la rencontre grâce à des buts assez tardifs. Notamment le dernier but, le but du 3 partout à la 95e minute de jeu, dans les arrêts de jeu, à la fin des arrêts de jeu, le Paris Saint-Germain qui a égalisé, qui avait peut-être les jambes au Parc des Princes, mais la tête surtout à Dortmund, car vous l'avez dit, il y a la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia, ce sera mercredi, le Paris Saint-Germain qui se contente du nul et qui devra attendre demain soir pour savoir s'il sera sacré ou non champion de France, en espérant que Monaco ne gagne pas sur la pelouse de Lyon.
Ce sera effectivement demain soir à 19h. Julien Froment en direct du Parc des Princes. On le rappelle, le PSG qui se déplace mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Préparation compliquée également pour les Allemands battus 4-1 cet après-midi par Leipzig en Bundesliga. Toujours pas de grand chelem non plus pour le 15 de France féminin, balayé par l'intouchable Angleterre cet après-midi. Victoire 42-21 des Red Roses dans ce match décisif du tournoi Destination. C'est le 6e grand chelem consécutif pour les Anglaises. Alors, bien sûr, il y a de la déception dans les rangs français, mais pour la talonneuse Agathe Socha, le parcours du 15 de France ouvre de belles perspectives d'avenir.
Évidemment, on est déçus. On aurait aimé sortir avec la victoire ce soir. Ce que les Anglaises font très bien, c'est que la moindre erreur, elles nous font payer cash. Et aujourd'hui, il aurait fallu probablement tout et un peu de chance en plus pour gagner. Par contre, nous, je nous vois vraiment évoluer. Oui, le jeu, il n'est pas celui qu'on aurait aimé qu'il soit, mais on a beaucoup grandi. Et je pense qu'il y a eu un avant tournoi Destination 2024 parce qu'on a eu un passé compliqué, trois dernières années très compliquées. Enfin là, sur 6 semaines, on a créé quelque chose, une aventure collective, une aventure humaine. Voilà, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour gagner un match, pour gagner ce match-là. Peut-être que dans quelques temps, ça nous permettra de le gagner.
À la talonneuse du 15 de France féminin, Agathe Socha, au micro de Fanny Lechevestrier. J'ajoute que ce crunch s'est joué devant plus de 28 000 spectateurs au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Record pour un match de rugby féminin en France. Et puis un mot de championnat de France masculin de rugby, le top 14, avec le leader qui a chuté ce soir. Le stade français réduit à 14, s'incline 41-18 sur la pelouse de Clermont plus tôt dans l'après-midi. Toulouse, le deuxième, s'est imposé face au Racing, 32-12. Bordeaux-Bègles monte sur la troisième marche du podium grâce à sa victoire à Bayonne, 34-15.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et demain, les orages se décalent vers l'est, Céline Acosta.
Oui, avec dès le matin des orages possibles des Cévennes à la Bourgogne. Ça devrait se calmer dans l'après-midi, mais les averses seront toujours présentes sur la région Rhône-Alpes et près de la Méditerranée. Pour l'ouest du pays, en revanche, ce sera plus calme le matin, avec même quelques éclaircies, mais quand même encore beaucoup de nuages et un risque d'averse qui va rester présent des Pays de la Loire vers l'Aquitaine. Dans l'après-midi, ce risque d'averse deviendra même orageux entre les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. On aura toujours un petit peu de vent, mais il va faiblir par rapport à ce samedi. Et pour les régions que je n'ai pas citées, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies. Côté température, on va gagner quelques degrés supplémentaires demain matin puisque la moyenne ira de 6 à 12 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 13 degrés en Bretagne pour la plus basse jusqu'à 17-19 degrés au sud de la Garonne et en Provence.
Céline Dacosta pour la météo, merci.
Politica. Immigration.
Démocratie. Cette année, on vote pour les élections européennes. France Inter se mobilise dans nos émissions et sur le terrain. Quels sont les enjeux? Que proposent les candidats? On vous donne les clés pour comprendre.
Ce lundi, le 18-20 est à Madrid, l'Espagne parmi les pays les plus pro-européens, mais aux multiples identités fortes, l'Espagne aux avant-postes du changement climatique et à la pointe du féminisme.
Europe et Europe. Europa.
France Inter, la radio des européennes.
23h12 sur Inter, rediffusion maintenant de l'émission culte de France Inter, Rendez-vous avec X par Patrick Penaud. Nous sommes ce soir en 1998.
Imaginez la scène. Le général de Gaulle est assis à son bureau au premier étage de l'Élysée. L'huissier à chaîne introduit un visiteur. L'homme a une soixantaine d'années. Plutôt corpulent, il est néanmoins tiré à quatre épingles. Il s'avance vers le bureau élyséen. Il ne semble pas très à l'aise. Quelques jours plus tôt, il était encore ambassadeur de France à Moscou. L'un des postes les plus prestigieux du Quai d'Orsay, un poste qu'il occupait depuis 8 ans, une sorte de record. Le général est en train d'écrire. Il n'a pas encore levé la tête. L'ambassadeur est maintenant devant le bureau. Il connaît bien le général qu'il a autrefois rejoint en 1941 à Londres. C'est donc un gaulliste historique, un compagnon de longue date. Et pourtant, à ce moment-là, il n'en mène pas large, je vous assure. Et il reste debout devant De Gaulle, comme un élève au piquet. Mais soudain, le général pose son stylo. Il lève la tête, dévisage l'ambassadeur, et il tonne. Alors De Jean, on couche ? Tout est dit, enfin, presque tout. Maurice De Jean n'essaie pas de s'expliquer ou de se défendre. C'est vrai, il a couché. Lui, ambassadeur de France, vétéran dans la carrière, s'est fait piéger comme le premier jeune diplomate venu par une jeune et jolie soviétique. Et, si je puis ajouter, le pire, c'est qu'il n'y a vu que du feu. Autant le dire tout de suite, cette affaire a été longtemps étouffée pour des raisons facilement compréhensibles. Et dans les années 70, un livre qui relatait en détail la faute de l'ambassadeur De Jean a même été censuré par son éditeur pour sa version française. Monsieur X, vous l'avez compris, a donc choisi de me parler cette semaine de ce dossier. Pourquoi ? Parce que derrière cette affaire De Jean, il y avait une fantastique entreprise de pénétration mise en place par le KGB, entreprise qui a redoublé lors de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. En effet, incontestablement, Moscou a vu d'un bon œil l'homme du 18 juin prendre les rênes en 1958. Pour les soviétiques, il y avait là la possibilité d'enfoncer un coin dans le camp occidental. Il n'avait pas tort puisque De Gaulle choisira, spectaculairement, de quitter l'OTAN. Quelle forme a prise cette tentative de pénétration ? On se souvient d'abord que le pouvoir gaulliste a encouragé, sinon favorisé, les relations franco-soviétiques. Pour De Gaulle, qui n'a jamais tenu compte des données idéologiques, c'était avec la Russie, traditionnelle alliée de la France, qu'il fallait amorcer ce réchauffement. Et en 1960, ce rapprochement aboutit au voyage quasi triomphal que Khrouchtchev a effectué dans notre pays pendant une semaine entière. Mais il ne s'agissait alors que d'améliorer nos rapports diplomatiques et économiques. Et pour être tout à fait juste, il faut aussi ajouter que De Gaulle a été un allié loyal et déterminé pour les Américains, en particulier lors du conflit des fusées de Cuba. Non, la vraie pénétration a eu lieu à un autre niveau. Et avant d'en venir au récit de M. X, je voudrais vous citer ces quelques lignes de Constantin Melnik. Melnik qui a été, comme vous le savez certainement, conseiller du Premier ministre Michel Debré pour les affaires de sécurité. Il écrit « Le gaullisme, plus que tout autre mouvement, pullulait d'agents d'influence de l'agréable KGB, dont nous ne sommes jamais parvenus à débarrasser De Gaulle. Ces braves gens n'ont pas dû, bien qu'on ne puisse en apporter la preuve, rester inactifs. » Et l'on prétendra même, après les révélations d'un transfuge soviétique aux États-Unis, qu'un proche, très proche, du général de Gaulle, était en réalité un agent de Moscou. C'est l'affaire Topaz, des noms ont été prononcés, mais l'homme, s'il a vraiment existé, n'a jamais été démasqué. Dans un instant donc, ce nouvel entretien avec M. X consacré à la pénétration soviétique en France dans les années 60 et au dossier de l'ambassadeur De Jean. I go out walking after midnight out in the moonlight just like we used to do. I'm always walking after midnight searching for you. I walk for my along the highway, well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. I stop to see a weeping willow. Somewhere a walking
Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Bon, une question d'abord, avant d'évoquer précisément l'affaire de Jean.
Oui.
En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, des réseaux soviétiques considérables ont été démantelés au cours des années 60.
C'est vrai, oui.
Hein? Bon, en France, non. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il n'y avait pas de réseau ?
Effectivement, c'est un point assez curieux. Le KGB s'intéressait autant à notre pays qu'à ceux que vous venez de mentionner.
Bah,
c'est évident.
Donc, s'il y avait des espions soviétiques importants en France...
Naturellement.
Mais, donc, on ne les a pas découverts. À moins, attendez, ça c'est autre chose, à moins qu'on n'ait pas voulu les découvrir.
Moi, je serais personnellement tenté par votre deuxième affirmation.
Ça me paraît assez grave. Alors, pourquoi ?
Mais écoutez, la France a traditionnellement entretenu de très bons rapports avec la Russie.
Ouais, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas voulu ternir ces bonnes relations en arrêtant leurs espions.
Il y a un petit peu de ça, oui. Puis je vous rappelle que c'est Mitterrand le premier qui frappera un grand coup en organisant un charter de pseudo-diplomates soviétiques. Mais ça, c'est dans les années 80.
Oui. Après l'affaire Farwell que vous m'avez racontée, hein, si je me souviens bien.
C'est exact, mais pendant des années, à l'exception de quelques types qu'on a pincés ça et là, on n'a jamais mis en lumière officiellement, en tout cas, l'existence de véritables réseaux. D'ailleurs, dans l'affaire de Jean, on n'a pas crié sur les toits que l'ambassadeur de France à Moscou avait été compromis. Bien au contraire, on s'est soigneusement tu.
Et pourquoi ? Pour quelle raison ?
Oh, la peur du ridicule d'abord, et puis ensuite, je le répète, on ne voulait vraiment pas fâcher les soviétiques en faisant un esclandre. La meilleure preuve, c'est que Maurice de Jean, s'il a vu sa brillante carrière diplomatique terminée d'un seul coup, n'a subi aucune autre sanction.
Bon, d'accord. Mais, alors, selon vos sources, hein, vos sources privilégiées, là, comment ça a commencé, cette affaire de Jean ?
Si vous le permettez, auparavant, je voudrais quand même faire une parenthèse. Puis tant pis si elle empiète un petit peu sur la chronologie. En juillet 1962, l'attaché militaire français à Moscou se suicide. Et vous imaginez bien que ça fait du bruit.
Du bruit, bon... Dans le milieu des services de renseignement que vous fréquentiez assidûment à l'époque, c'est
naturellement.
Ça,
ouais. Alors on cherche, on enquête, et rapidement, on trouve.
Ah, racontez.
Eh bien, ce militaire, le lieutenant-colonel, j'ai inutile de dire son nom, avait rencontré 5 ans plus tôt une étudiante russe, plutôt mignonne, une certaine Ada.
Dans quelles conditions ?
Au cours d'un voyage en train à Vladivostok.
Le transsibérien.
Oui, 10 jours de voyage dans le même compartiment, 10 jours et 10 nuits. Avouez qu'il aurait fallu être moine pour ne pas succomber encore.
Oui, admettons, mais enfin... Donc le lieutenant-colonel et la jeune Ada...
Eh oui.
Et j'imagine que la petite étudiante n'était pas tout à fait aussi innocente et amoureuse qu'elle le paraissait.
Bien entendu, c'était une créature du KGB. Et en cédant aux avances du français, elle accomplissait une mission. Ouais.
Oui, mais attendez. À l'époque, tout le monde savait qu'il fallait se méfier, surtout... Enfin, quand on occupe un poste aussi exposé.
Je sais, mais enfin, que voulez-vous, les faiblesses sont humaines, par nature.
Donc cet officier se fait coincé, hein. Et les soviétiques vont classiquement le faire chanter, enfin, c'est ce que j'imagine, hein, parce qu'il doit être marié, ce militaire.
Eh oui, il l'est. Donc vous avez raison, les types du KGB mettent une vraie souricière en place. Parce qu'à Moscou, naturellement, ils étaient très très organisés. Et puis les hirondelles, comme on appelait ces jolies collaboratrices... Ouais. Les collaboristes du KGB, bien sûr, disposaient d'appartements qui permettaient de prendre des prises de vue d'un réalisme incontestable.
Porno, quoi.
Absolument, mais enfin, pas de chance pour les sbires du KGB. Le lieutenant-colonel est soudain rappelé à Paris.
Donc, il est rappelé avant que le chantage ne commence.
Oui.
Ouais. Donc, si je puis dire, là, le KGB avait investi pour rien.
Exactement, mais 2 ou 3 ans plus tard, nouveau retournement de situation. L'officier français revient à Moscou.
Et la belle... Ada, c'est ça? La belle Ada se rappelle à son bon souvenir.
Évidemment. Et c'est l'amour. L'amour fou pour le lieutenant-colonel, en tout cas. Mais patatras, l'épouse de l'attaché militaire et ses 2 enfants arrivent à Moscou pour les vacances. G, qui est un type droit, avoue à sa femme qu'il a eu une liaison avec une soviétique.
Et réaction de l'épouse? Elle retourne à Paris?
Non. Elle demande à son époux de rompre avec sa maîtresse.
Et vous l'appelez la G, là? Il accepte?
Non, parce qu'il prétend que c'est impossible. Il est moralement engagé, il ne peut pas abandonner Ada comme ça.
Ouais, enfin bon, soyons précis, hein, quand même. Est-il sincère ou... Moi, je crois, il était plutôt complètement piégé par le KGB.
Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, la vérité, c'est que le lieutenant-colonel ne peut plus supporter cette situation et il finit par se suicider.
Ah oui, suicider. Mais ce qui laisserait quand même croire qu'il était, lui, complètement à les mains du KGB. Et qu'il a voulu, en quelque sorte, échapper au déshonneur.
Ça paraît, en effet, vraisemblable. Mais l'enquête menée par les services n'a pas permis de l'établir.
Vos services?
Oui, ouais, n'a pas permis de l'établir d'une façon formelle. En revanche, ce qu'on a pu mettre en évidence à cette occasion, c'est que notre ambassade à Moscou était une cible de premier choix pour les soviétiques, et cela depuis fort longtemps.
Bon, on va essayer de comprendre pour quelle raison, c'est pas compliqué.
Bien, les soviétiques devaient considérer que la France était en quelque sorte le maillon faible de l'Europe.
Le maillon faible.
Oui, celui qui finirait par rompre le premier et entraîner ensuite tous les autres. Sans doute en raison de l'exceptionnelle influence du Parti communiste chez nous. Donc Moscou avait décidé de viser d'abord la France.
Et ça, donc, ce que vous dites, ça va déboucher sur l'affaire de Jean.
Exactement. Une affaire qui a été menée de main de maître et qui a été préparée avec une précision inouïe.
Mais dites-moi, qui prend ce genre, en Union soviétique, hein, qui prend ce genre de décision? Tenter de compromettre l'ambassadeur de France, c'est pas rien quand même. Hein.
Vous avez répondu vous-même à la question. Ces initiatives, effectivement, sont prises au plus haut niveau. Et dans le cas de Jean, c'est ce bon Monsieur K.
Monsieur K, Khrouchtchev?
Lui-même, celui qui viendra 3 ou 4 ans plus tard trinquer avec le chanoine Kir. Oui, c'est lui qui a ordonné au KGB de piéger Maurice Dejean. C'est vous dire que l'affaire était d'importance.
Boule de cuir tourne dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, aux déesses de pierre. 4 boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch. Boxe, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, il faut être vainqueur. 4 boules de cuir sur 4 pieds de guerre bombardent le plexus. Boxe, l'angle du maxillaire. 4 boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Boxe, il esquive mon swing. Quitte marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Boxe. Quatre boules de cuir et soudain de qui roule répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Oh, déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Boxe, comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
En commençant cette nouvelle émission, je vous ai parlé d'un livre qui avait été en partie censuré en France. Ce livre de John Barron, intitulé « Le travail secret des agents soviétiques », raconte avec beaucoup de détails l'opération de Jean, je cite Barron. Plus de 100 officiers et agents du KGB, dont d'éminents intellectuels et d'élégantes prostituées, ont participé à ce complot qui entraîna un véritable siège de toute l'ambassade de France et causa la mort d'un honorable Français. Barron évoque là le lieutenant-colonel dont a parlé M. X. Il me faut ajouter que cette technique du KGB visant à utiliser des jolies filles pour compromettre les diplomates a été fréquemment mise en œuvre. Dans un article de la revue L'Histoire, Christopher Andrew, professeur d'histoire à Cambridge, révèle que le premier directeur de la CIA à Moscou, Edward Ely Smith, est lui-même tombé dans les bras d'une employée qui travaillait pour le KGB. Et il affirme que la manœuvre s'est répétée avec un nombre impressionnant de diplomates occidentaux. Parmi eux, donc, Maurice Dejean, l'ambassadeur de France à Moscou, sur l'ordre de Khrouchtchev en personne.
Dejean était depuis longtemps dans le collimateur du KGB.
Et pourquoi lui, on sait pourquoi ?
Oui, c'est pas très difficile à comprendre à cause de ses fonctions. D'abord, dès 1941, Dejean, qui a derrière lui une belle carrière de diplomate, est directeur des affaires politiques de la France libre à Londres.
Il choisit le bon camp, lui.
Ouais. Ensuite, il va aller de promotion en promotion jusqu'à sa nomination à Moscou au milieu des années 50. En outre, il est resté proche du général de Gaulle. Et le retour du général n'est pas improbable.
Donc, le KGB le surveille.
Oui, comme il surveille toutes les personnalités d'envergure. Mais il y a une autre raison aussi. Dejean passe pour être pro-soviétique.
Il est communiste ?
Je n'ai pas dit ça, j'ai dit pro-soviétique. C'est-à-dire qu'il a des sympathies pour l'URSS, mais pas plus. Mais c'était assez à la mode dans ces années-là.
Mais alors, s'il est pro-communiste, pourquoi essayer de le compromettre ? Je ne sais pas, moi, on aurait pu au contraire se contenter d'encourager ses sympathies.
C'était pas suffisant. L'objectif du KGB, c'était bien d'en faire un véritable agent.
Attendez, un agent, un espion ou un agent d'influence ?
Vous appelez ça comme vous voudrez.
Oui. Alors que, comment, d'après vous, le KGB procède ?
Dès que Dejean arrive à Moscou, on le met, lui et sa femme, sous une surveillance permanente. Et croyez-moi, les soviétiques savaient y faire.
Et concrètement, ça se passe comment ?
D'abord, on place auprès du couple des collaborateurs dévoués. Le chauffeur de M. Dejean est un type du KGB. Mmh. Et la femme de chambre de Mme Dejean appartient aussi à la centrale soviétique. Ce n'est pas suffisant. On place aussi des micros un petit peu partout. Et jusque dans la chambre à coucher des Dejean.
Ça, c'est... Enfin bon. Et le but ?
Connaître tout du couple.
Et de ses éventuelles, faiblesses ?
Voilà.
Et le KGB découvre quelque chose ?
Oui. Il apparaît clairement que l'ambassadeur, qui a une bonne cinquantaine, est un petit peu chatouillé par le démon de midi.
Ça, c'est pas très original.
Peut-être, mais enfin, c'est quand même intéressant. Et le KGB va utiliser habilement l'information. La cheville ouvrière de l'opération va être un spécialiste, un certain Krotkov.
Mmh. Qui c'est celui-là ?
Bah, officiellement, il est dramaturge et scénariste.
Ah, un intellectuel.
Hein, c'est oui, ça. Oui. Ouais. Enfin, disons, un type très introduit dans les cercles littéraires. C'est par exemple un ami des Pasternak.
Ah, quand même.
Qui fréquente aussi beaucoup, en raison de sa profession, le monde du théâtre et du cinéma. Vous voyez, je veux en dire.
Des actrices ?
Par exemple, oui, les actrices. Le travail officieux de Krotkov, c'est de recruter des comédiennes pas trop farouches.
Pour le KGB, non ?
Naturellement.
Alors, soyons clairs, là, votre Krotkov, au fond, c'est une sorte de proxénète, non ?
On peut voir les choses comme ça, mais attention, c'est un type qui porte beau, qui est cultivé, charmeur.
Bon, il n'empêche, hein.
D'accord.
Alors, comment ça se passe avec Dejean, l'ambassadeur de France, je rappelle, hein ?
Curieusement.
Curieusement, je vous écoute. Là.
Bien, la première cible, ce n'est pas l'ambassadeur, mais la femme de l'ambassadeur.
Parce qu'on va essayer de la séduire.
En quelque sorte, oui. Écoutez, je vais être franc, je ne sais pas si Madame Dejean a succombé ou pas, hein, peu importe. Ce qui compte, c'est que Krotkov, très habilement, s'est introduit dans son entourage. Et il n'était pas seul avec lui, il y avait un garçon qui était une vedette à l'époque, un nommé Orlov, un chanteur.
Orlov, comme le favori de la Grande Catherine.
Oui, oui, il y a des noms qui doivent être prédestinés.
Et lui aussi, à votre avis, c'était un agent du KGB ?
Un agent occasionnel, oui. Célèbre, très beau, très séduisant. Il avait pour mission de séduire les étrangères. Il paraît que son tableau de chasse était particulièrement bien rempli.
Ah oui.
Enfin, je vous le répète, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre Orlov et l'épouse de l'ambassadeur. L'important, c'était que Krotkov parvienne à approcher Dejean.
Et c'est ce qui va se passer, effectivement ?
Bien entendu. Madame Dejean, qui ne tarit pas d'éloges sur ses nouveaux amis, finit par les inviter à une réception à l'ambassade et les présente à son époux.
Donc, si je vous ai bien entendu, là, le piège est en place.
Oui, oui, mais les gens du KGB ne précipitent pas les choses. Ils avancent petit à petit. Et là, un nouveau personnage va faire son apparition. Un certain Gorbounov.
Et il sort d'où, celui-là ?
C'est un dirigeant très important du KGB. Gorbounov n'est pas son vrai nom, bien sûr. En fait, il s'appelle Gribanov. Et il est lieutenant général.
Ouais, mais je vois toujours pas ce qu'il vient faire de cette affaire.
Vous allez voir, c'est très subtil. Le pseudo Gorbounov se fabrique une fonction prestigieuse. Membre du Conseil des ministres. Et il se fait présenter en tant que tel à Dejean.
Mais quand vous dites qu'il se fabrique...
Le KGB est tout puissant, rien ne lui est impossible. Et la façade de Gorbounov est impeccable. Très vite, les deux hommes deviennent amis, on se reçoit, on va à la chasse ou au spectacle ensemble. C'est à ce moment-là que le piège va se refermer sur Dejean et que Krotkov va donner la mesure de son talent. Krotkov et ses belles protégées, bien sûr.
Mieux que ta bouche, mieux que tes lèvres, tes omoplates, tes yeux. Mieux que ton coude à ma fenêtre, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux que l'agneau, que la belette, ou que tes poignets gracieux. Que le sillage d'une haie. Non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux qu'une brune qui se lève, mieux que le renard peureux, mieux que le fruit, mieux que son zeste, que de passer aux aveux. Mieux que le goût de la noisette, mieux que de rêver à deux. Que tes lettres à l'encre violette, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. trouver le sommeil, que son paravent soyeux, que le vertige en Mercedes dans la matrice des cieux, mieux que le timon, que l'arrêt de l'imbécile heureux, que toi pour me laisser en reste, non Dieu n'a pas trouvé mieux.
Dans le livre de John Barron que j'ai déjà cité et qui est partiellement reproduit dans l'ouvrage de Thierry Volton, Le KGB en France, j'ai trouvé des détails intéressants sur ce Krotkov. Grâce à son père qui était peintre, il avait bien connu Beria lorsque celui-ci était le responsable du Parti communiste de Géorgie. Une protection qui ne lui fera jamais défaut et qui va l'entraîner peu à peu à devenir un agent contractuel du KGB, lorsque Beria prendra en main la centrale soviétique, qui s'appelait encore le NKVD. Krotkov, l'intellectuel, fréquentait assidûment les milieux étrangers de Moscou, où il était très apprécié. C'était donc une recrue de choix pour le NKVD. D'autre part, Krotkov, M. X nous l'a dit, avait professionnellement des contacts avec les actrices, et l'une de ses fonctions consistait à présenter ses filles à ses amis étrangers. Je cite Barron. Le NKVD les stimulait en leur promettant de meilleurs rôles, de l'argent, des habits ou encore un peu de liberté, d'amusement, toutes choses normalement absentes de la vie soviétique. Ces recrues étaient surnommées les hirondelles. Pendant la durée d'une opération, elles étaient autorisées à utiliser des nids d'hirondelles, c'est-à-dire deux studios adjacents. Dans l'un, la fille séduisait l'étranger qu'elle devait compromettre, dans l'autre, les techniciens du service de renseignement, filmait et enregistrait le tout.
Un jour, l'ami Gorbounov propose à Dejean de lui organiser une projection de cinéma à l'issue de laquelle il pourra lui présenter des personnalités du monde du spectacle.
Et l'ambassadeur Dejean saute sur l'occasion.
Bien sûr, ouais. Et Madame Dejean encore plus. D'ailleurs, qui s'occupera de dresser la liste des invités? Son excellent ami Krotkov, qui connaît tout ce qui compte à Moscou. Mmh.
Et alors, cette soirée-là, ça se passe comment?
Parfaitement. Krotkov a choisi d'asseoir à côté de l'ambassadeur une vraie beauté, une certaine Lydia.
Ah, tiens, encore une. Et Dejean est ferré.
Oui, oui. Et dès le premier regard de la belle Lydia, il est sous le charme. Bon, je vous passe les détails. Mais les réceptions succèdent au dîner. Lydia est toujours là, resplendissante. Et l'ambassadeur n'y tient plus. Alors, le KGB se débrouille pour occuper Madame Dejean et l'envoyer en voyage de tourisme avec ses chers amis Krotkov et Orlov. Et un après-midi, l'affaire est conclue. Dejean raccompagne Lydia chez elle.
Ah, succès total.
Oui, oui, mais enfin, ce n'est pas encore assez.
Attendez, je comprends pas, là.
Gorbounov passe à la deuxième partie de son plan, car il veut tenir Dejean, le tenir de la façon la plus étroite possible. Il faut dire que c'est de plus en plus urgent.
Et pourquoi?
Mais parce qu'on est en 1958, et qu'à Paris, De Gaulle vient de revenir au pouvoir. Or, Dejean est l'un des proches du général. Avoir barre sur lui, c'est essentiel, vous comprenez? D'autant que derrière, il y a un espoir formidable pour les soviétiques. Un espoir qui justifie les plans les plus cyniques et les plus machiavéliques.
Attendez, racontez-moi ça.
Bon, un petit peu de patience. Donc, Gorbounov, si j'ose dire, va passer à la vitesse supérieure. D'abord, il donne l'ordre à Lydia de disparaître de la circulation. Vous imaginez le désarroi de notre ambassadeur.
À peu près, l'ambassadeur amoureux. Hein. Mais pourquoi, ouais. Pourquoi cette disparition de la scène de Lydia?
Gorbounov veut laisser mariner Dejean quelque temps.
Mariner.
Ouais. Et enfin, il s'arrange pour lui présenter une nouvelle hirondelle. Une certaine Larissa, qu'on appelle familièrement Laura.
Et ça c'est encore une actrice de l'écurie Krotkov.
Bien sûr.
Et Laura, à votre avis, Laura succède comme ça à Lydia dans le cœur de l'ambassadeur?
Assez rapidement, mais attention, il y a une différence de taille entre les deux femmes. L'une, Lydia, était célibataire, tandis que Laura, elle, est mariée.
Ah.
Et son époux, un géologue, est particulièrement jaloux. Heureusement, il fait de fréquents et longs séjours professionnels en Sibérie.
Oui, ça me paraît assez pratique. Et qu'y a-t-il de vrai là-dessous?
Rien. Naturellement, Laura n'a jamais été mariée.
Bon, pourquoi alors avoir inventé tous ces mensonges ?
Parce que Gorbounov prépare à l'intention de son bon ami Dejean une scène de vaudeville particulièrement gratinée.
Attendez, le retour du faux mari ?
Bien sûr, vous avez deviné. Ouais. Et voilà comment ça se passe. Un jour, l'ambassadeur de France est en train de roucouler avec Laura dans l'appartement de cette dernière. Bref, passons. Et soudain, le mari débarque. Alors, c'est un méchant, c'est une vraie brute.
Et il cogne.
Oui. Et puis, pour donner plus de véracité à la scène, après avoir sévèrement corrigé Dejean, il s'occupe aussi de Laura qu'il frappe sans ménagement.
Bon, ça me paraît simple. Ce type est un type du KGB, c'est ça, hein ?
Oui, et puis un homme de main très bien entraîné.
Alors, situation délicate, que se passe-t-il ?
Eh bien, le mari outragé menace de provoquer un scandale et de porter plainte. Et Dejean a non seulement été corrigé, mais il risque maintenant de voir sa carrière compromise si l'affaire devient publique. Conclusion ? Et il va voir le seul homme à qui il puisse raconter l'affaire, son ami Gorbounov, qui occupe de si hautes fonctions au sein du pouvoir soviétique.
Bien sûr, il lui demande d'arranger les choses.
Très juste. Et vous imaginez bien que Gorbounov se fait un malin plaisir d'obliger son ami. Rassurez-vous, Dejean, je vais mettre à la raison ce mari jaloux, j'en fais mon affaire.
Vous jouez bien le rôle, ouais. Donc, à partir de ce moment... Dejean n'a plus rien à refuser à Gorbounov.
Vous avez compris, oui. L'ambassadeur de France est désormais pieds et poings liés. C'était un succès sur toute la ligne pour le KGB.
Mais est-ce qu'on a une idée des conséquences de cette compromission de Dejean ?
Vous voulez dire, est-ce que Dejean a trahi ?
Bah oui.
Bah, c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui.
Alors, je comprends pas là, pourquoi autant d'efforts ?
Mais parce que je voulais laisser entendre. Le KGB nourrissait de plus grands espoirs.
Quels espoirs ?
Bien, les Soviétiques pensaient que Maurice Dejean, en raison de ses relations privilégiées avec le général de Gaulle, avait de très grandes chances de devenir un jour son ministre des Affaires étrangères. Et ils ne voulaient pas activer Dejean avant.
Parce qu'ils craignaient... L'activer avant, ça... ils craignaient de le rendre suspect.
Exactement. Bon, il faut reconnaître que le jeu en valait la chandelle, non ? Tenir le ministre français des Affaires étrangères, c'était quand même autrement plus intéressant que manipuler un ambassadeur.
Oui, mais à ma connaissance, Dejean n'a jamais été ministre.
Non, non. D'abord, je ne sais pas si De Gaulle a vraiment imaginé un jour en faire un ministre des Affaires étrangères. Et puis ensuite, il y a eu la défection de Krotkov.
Krotkov, le proxénète des belles actrices.
Oui, oui, oui. Un jour, peu de temps après d'ailleurs le suicide de ce lieutenant-colonel dont je vous parlais au début de cet entretien, Krotkov a craqué.
Des romans ?
Oui. Que voulez-vous ? Même les proxénètes peuvent avoir de la morale, après tout. Bon, enfin, dégoûté, il a profité d'un voyage en Occident pour choisir la liberté, comme on disait à l'époque. Et tout de suite, il s'est confié.
Et à qui il s'est confié ?
Ben, nos amis, les Anglais. Et ce qu'il a raconté a paru tellement énorme que les gars de l'intelligence service ont immédiatement alerté leurs collègues français, pour une fois.
Oui, mais enfin, ça n'a pas dû tout à fait surprendre ceci, puisque vous m'avez dit... Hein, qu'après le suicide à Moscou du lieutenant-colonel, nos services de renseignement avaient pu établir que l'ambassade française était un objectif prioritaire pour le KGB.
D'accord, mais apprendre que l'ambassadeur en personne est compromis, ça fait quand même une sacrée différence. Mais,
attendez, vous avez quand même dit que l'affaire avait été étouffée, c'est bien ça, hein ?
Oui, mais Dejean, dès qu'on a eu la certitude que le transfuge Krotkov disait bien la vérité, a été aussitôt rappelé à Paris. Je vous prie de croire qu'on l'a sérieusement cuisiné.
Sérieusement ? Et il a parlé ?
Il a tout déballé. Il faut dire que M. l'ambassadeur n'était pas très fier. Se faire pincer comme ça par une jolie fille, n'est-ce pas ?
Oui, je comprends, mais... Vous avez dit précédemment qu'il n'avait pas trahi. Bon, c'est au cours de cet interrogatoire très, très spécial que vous en avez acquis la certitude.
Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai assisté à ces interrogatoires ?
Je ne sais pas, une idée comme ça leur répondait.
Eh bien oui, Dejean avait couché, comme lui a reproché plus tard le général, mais il n'avait pas trahi. On a pu l'établir formellement en interrogeant aussi son entourage et ses collègues de l'ambassade.
Mais s'il n'a pas trahi, c'est peut-être parce qu'il n'en avait pas eu le temps, non ? Ou que les soviétiques ne lui avaient pas encore demandé de trahir.
Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce propos. Pour ma part, je n'ajouterai rien.
Maurice Dejean n'a jamais parlé de sa mésaventure moscovite. Mais étrangement, il ne semble pas en avoir voulu aux Soviétiques. En effet, d'après Thierry Volton, que j'ai cité tout à l'heure, Peu après son rappel en France, il a accepté la présidence de l'association France Source Mieux. Il a été nommé PDG d'une petite entreprise d'horlogerie créée avec des capitaux soviétiques. Ce qui semblerait prouver que ses rapports avec l'Est étaient peut-être plus étroits encore que ne l'affirmait M. X. Un mot encore. Lorsque Dejean est mort en 1982, le journal Le Monde a publié une notice nécrologique dont j'extrais ces quelques lignes. En décembre 1955, Dejean est nommé ambassadeur à Moscou. Un poste qu'il occupera pendant 8 ans au point de devenir au début de 1964 doyen du corps diplomatique dans la capitale soviétique. Le général de Gaulle dut cependant le rappeler à cette date à la suite des révélations d'un transfuge du KGB relatant des aventures sentimentales compromettantes pour l'ambassadeur. C'est à ma connaissance la première fois que la presse française a fait allusion à cette affaire, presque 20 ans après les faits. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X.
Merci Patrick Pénaud et à samedi prochain avec un nouveau dossier de Monsieur X. Et maintenant retrouvons Charlotte Perry pour Des Vies Françaises. Ce soir, c'est le dernier épisode de notre rencontre avec Robert Birenbaum. Entré dans la résistance à tout juste 16 ans, au sein des jeunesses communistes de la main-d'œuvre immigrée, Robert Birenbaum a participé à la libération de Paris en août 44. Décoré de la Légion d'honneur en juin 2023, il accompagnait l'entrée des cercueils de Missak et Méliné Manouchian au Panthéon le 21 février dernier. Une reconnaissance tardive, mais une reconnaissance tout de même à laquelle il a encore du mal à croire.
Moi qui ne crois à rien, je suis athée, je crois qu'il y a une chose à ma chance. Depuis le 18 juin 2023, où j'ai été décoré de la Légion d'honneur, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Alors je crois que je suis peut-être mort. Et je dois rêver ce qui m'arrive parce que c'est trop, c'est impossible. J'ai une chance extraordinaire.
Elle est là, hein, la Légion d'honneur.
Elles sont là, elle est là-bas. La Légion d'honneur. Eh oui.
On va s'asseoir.
On va s'asseoir. À la libération, je vais être, je ne sais pas, numéro 5 ou numéro 6 parmi les dirigeants de la résistance parisienne. Je n'ai jamais dormi, j'ai dirigé des opérations formidables à Paris. Vous savez, un de mes plus beaux souvenirs, j'étais sous le métro aérien Jean Jaurès, et je me souviens qu'un capitaine Patrick, qui était un adjoint du colonel Roll Tanguy, c'était l'artificier qui nous avait appris comment on maniait les armes, comment on servait une grenade. Il s'approchait de moi. C'était vers le 8e jour, le 7e jour de l'insurrection. Et il est venu, il m'a dit, Guy, le colonel Roll m'envoie pour te demander qu'est-ce que tu en penses. Les Allemands demandent une trêve. Est-ce que tu acceptes? Et j'ai dit non. Et il est parti dire au colonel Roll que Guy n'était pas d'accord pour faire une grève. On était comme ça. On s'est battus comme des lions. Les 10 jours d'insurrection, ça a été de la folie. On voulait se battre, on voulait pas baisser la tête. On nous avait insufflé quelque chose de magique. On y croyait. Et on avait raison d'y croire. Puisqu'en définitive, on a libéré Paris. Parce que c'est nous qui avons libéré Paris. Attention, j'ai discuté au Mont Valérien avec les historiennes quand on m'a décoré la Légion d'honneur. Et justement, mon fils n'était pas content après moi, mon fils aîné. Parce qu'à un moment, l'historienne a dit l'armée Leclerc a libéré Paris. Alors j'ai dit, attention, madame. Là, vous faites une erreur historique. Je dis, l'armée Leclerc est arrivée le dernier jour de l'insurrection. C'est vrai qu'ils nous ont aidés à libérer ce jour-là la place de la République, mais les 8 jours d'insurrection, c'est nous, les jeunes communistes, qui avons libéré Paris. C'est pas l'armée Leclerc. Alors mon fils m'a dit, papa, t'aurais pas dû dire ça. J'ai dit, bah, je m'excuse, je dis ça parce que c'est la vérité. Ça a été tellement falsifié. C'est... L'existence, c'était nous, il n'y a pas d'histoire, c'est comme ça. Je suis très fier de ce qu'on a fait. La récompense que j'ai, c'est pour mes copains. Hein, ouais. Bon, vous savez, les médailles, elles restent là. Hein. Je ne vais pas mettre des médailles, ça peut me faire. La médaille, elle est là.
La tête ?
Voilà, oui, absolument. Tout est à eux.
Aucun de vos copains a été décoré de son vivant ?
Personne. Jamais.
Vous êtes le seul ?
Oui, je suis le seul. Et puis, je suis le dernier, voilà. C'est, encore une fois, la chance. La chance. Et je voulais vous dire justement, j'avais prévu aujourd'hui à dire une chose que je n'ai pas encore dite, je crois. Ma principale chance, la première, c'est d'avoir rencontré ma femme. Je l'ai rencontrée le jour de la libération de Paris, le 25 août 1944. Elle était enfermée depuis 2 ans et 3 mois dans un appartement au 209 rue Saint-Maur. Depuis l'âge de 13 ans et demi jusqu'à 15 ans et demi, elle avait mis le nez dehors. Et le jour de la libération, elle est sortie quand les cloches sonnaient. Elle a été voir une copine à elle d'enfance, qu'elle connaissait depuis Berck-Plage, où elle fréquentait les jeunesses communistes à l'époque juive. Cette copine, c'était ma première copine de résistance. Je venais de m'engager dans l'armée française, j'étais sous-officier, sergent-chef, j'avais 18 ans. Et ce jour-là, donc, je viens dire bonjour à ma copine, et elle me présente son amie d'enfance. Et après, pendant 65 ans, on a vécu ensemble une vie extraordinaire. C'est elle que je dois tout. Elle est là, elle est partout.
Elle est en photo, là ?
Oui, avec mes deux fils, là. Elle m'aura 82 ans, vieille, le 6 février 2009. Et c'est une catastrophe. La vie a fait con. On nous a séparés, c'est comme ça. Mais on a eu une vie... C'est innommable. J'ai eu la chance. Mon lieutenant dans l'armée m'a appris un métier. Je ne savais rien faire, lui. Résistant à 16 ans. Vous savez, à 18 ans, quand je l'ai rencontré, j'étais avec ma jeune fiancée. Il me dit, Guy, appartenir à un pistolet, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, écoute, Jean, je ne sais rien faire. Écoute, je suis contremaître dans une maison de maroquinerie chez mon oncle. Viens, je vais t'apprendre un métier. Et on a eu de la chance, on a réussi. J'ai fabriqué des sacs pour dames, en tant qu'ouvrier à domicile d'abord, puis un petit atelier, puis un grand atelier avec 10 personnes. Puis ma femme a pris un magasin rue du Temple. On a eu un succès fou. Et on a gentiment réussi, sans faire d'esbrouf. Mais voilà, on a eu une belle vie. Moi, je vais vous montrer ce que je veux montrer. Celle-là. Oui. Me voilà avec ma femme. À la libération de Paris.
C'était fin août 44.
Oui.
Juste quand vous êtes rencontrés.
Oui, c'est ça. Mais... 18 et 16 ans. Regardez comme elle est belle. Bon, avec compte cette beauté. Un jour, pendant que j'étais militaire, sous-officier, je chantais tous les soirs avec un orchestre. Quand le spectacle s'est terminé, j'avais fait un ramdam terrible. On me portait en triomphe. Et quand Thérèse, qui était là-haut au poulailler, quand je suis remonté, elle m'a dit, tu sais, Guy, c'est moi ou c'est la chanson. Alors,
il y avait tellement de femmes autour de vous qu'elle était un peu jalouse.
Elles étaient tout autour de moi. Alors, je chantais, mais pour la cour. Bon, je jetais des pièces par la fenêtre. Chez moi, quand je piquais à la machine, ils jetaient des pièces dans la cour. Ils adoraient m'entendre chanter. Mais j'ai chanté chez Chantal. Je peux plus maintenant. Mais enfin, je dis ça, mais j'aime tellement chanter. Alors. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot.
Comme un petit coquelicot,
mon âme. Comme un petit coquelicot.
Un tout petit coquelicot.